Bonjour monsieur Vivien.
Bonjour monsieur Serge.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Merci pour les chocolats, il est gentil comme tout, il nous a amené du chocolat.
Bah oui, c'est normal, amour. C'est Noël.
Quel amour ce petit. Et après il va nous présenter un truc bien dégueulasse avec du sang partout.
Absolument.
c'est le contraste, c'est ça?
Absolument.
On fait exprès d'envoyer des chocolats, comme ça après on peut envoyer le truc qui déchire. Alors les trucs qui déchirent, bien sûr, si vous avez l'habitude, c'est que sûrement c'est un manga.
Alors pas forcément, mais là en l'occurrence oui c'est un manga. Ça fait un moment que je n'avais pas parlé à la radio. En tout cas je reviens un peu vers le pays du soleil levant pour vous parler d'un manga adulte, donc c'est un seinen qui est sombre et violent, qui retranscrit non sans romance la mythologie et le contexte historique du Japon des samouraïs. Il s'appelle Les Sept Ninjas de Feu.
Yes, très belle couverture qu'on voit en ce moment sur la vidéo, sur voilà, Facebook.
C'est ça, où en fait on voit la transformation du personnage principal en démon.
Ah, d'accord.
C'est un tome qui est signé Takayuki Yamaguchi, et il est diffusé chez nous par Meien Edition, une maison d'édition qui est spécialisée dans le seinen, puisque c'est elle qui édite Kingdom, un manga sur l'histoire de l'unification de la Chine, qui en est à son 28e tome, semble-t-il. Et dernièrement, ils ont publié Balzar, qui est une histoire de... on va dire de... stratégie militaire sur un militaire dans les guerres napoléoniennes, grosso modo, et c'est plutôt pas mal aussi.
Plutôt de la qualité, donc.
Oui, ils font des très très bonnes choses, cette maison d'édition-là.
Alors, c'est vrai que tu m'as montré quelques images, Les Sept Ninjas de Feu, c'est pas de la tarte, hein, mais que raconte quand même cette fresque mythologique?
Après la chute du château d'Osaka, suite à une guerre d'une violence sans nom, le cruel Tokugawa prend le pouvoir au profit du clan Toyotomi. Et donc, eh ben, il se met à lancer une purge ethnique sanglante pour asseoir son autorité. Et ben, de là, une jeune fille, une fille de samouraï, va fuir ces représailles-là. Et fuir cette justice arbitraire et s'enfuir dans la forêt et dans les montagnes où il y a un peuple de barbares pour y retrouver refuge. Cependant, il y a des milices locales à travers le pays qui ont juré allégeance au nouveau pouvoir, on va dire, en place, et qui vont les retrouver, qui vont, exécuter, torturer tout le village. Et de là, un des habitants du village va se retrouver sur le chemin de l'au-delà avec un choix qui lui est confronté. Soit il embrasse le chemin de Bouddha, donc c'est-à-dire qu'il choisit le paradis, grosso modo, ou alors il devient Oshin, c'est-à-dire un démon, et décide de se venger à travers le temps.
Et devenir le ninja de feu.
C'est ça, le premier ninja de feu.
Dont on voit la couverture. Franchement, j'aime beaucoup le dessin de la couverture. Il déchire sa race, comme on dit.
Voilà, et lui, c'est le premier. Et là où je suis au tome 3, il y a déjà 4 ninjas de feu qui sont apparus.
D'accord. Le premier, on va l'offrir tout à l'heure. Restez bien jusqu'à la fin de la chronique.
C'est
aujourd'hui.
Ça.
Alors, dis-moi, ce résumé bien complet, plutôt sympa. Si on aime les choses un petit peu fortes, hein, quand même. Cette histoire est un peu violente, mais est-ce qu'elle vous fait craquer, monsieur?
Alors, j'ai beaucoup aimé. L'auteur, sous fond de mythologie, évoque la période la plus sombre du Japon où là on va parler de transition de pouvoir, on va parler de purge ethnique, hein, il y en a eu à travers tous les pays du monde, mais notamment au Japon, hein, pour éviter qu'un successeur revienne au pouvoir après quelques années à s'être caché, on va tuer sans limite les gens. Et l'auteur aborde sans concession l'imagination sans limite de l'homme concernant la violence et la torture. Il place donc son récit dans une transition politique intéressante qui a bien existé dans le Japon féodal. Il y en a eu plusieurs, hein, de ces transitions-là. Les différentes castes de l'époque sont bien expliquées. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout le Japon féodal, on va expliquer ce que c'est qu'un shogun, ce que c'est que les subalternes du shogun et tout l'apparat autour de cette monarchie-là. Donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt bien expliqué. Et on ne s'y perd pas même si on est novice.
D'accord. C'est vrai qu'en plus il faut s'y connaître, hein. C'est très complexe, hein. L'histoire, le vocabulaire.
C'est ça, voilà. Et l'éditeur a eu l'extrême bonne idée de traduire le vocabulaire de l'époque et surtout les attaques des assaillants pour immerger un peu plus le lecteur, notamment les attaques du ninja de feu qui sont bien écrits. Notamment, il attaque
Sa transformation, sa métamorphose, voilà,
Et puis en fait, il peut attaquer les gens avec ses cheveux et les tuer avec ses cheveux.
Ah bah,
et ils appellent ça l'estafilade. Alors, j'ai pas le nom en japonais, je suis désolé. Là, par contre, je passe la main parce que sinon, ça va être une insulte pour le japonais.
Alors, tu nous as mis une photo là,
c'est ça,
en noir et blanc. On voit du sang un peu, non, qui coule.
Il va découper quelqu'un avec sa crinière.
Eh ben dis donc, c'est comme moi, il a des cheveux extraordinaires.
C'est ça, absolument. On ne te voit pas, mais tu te brosses souvent pendant que tu fais ta chronique.
Évidemment. Ensuite, les yokai.
Voilà, c'est ça. Donc les yokai et les divinités japonaises se sont merveilleusement bien exploitées. Pour les gens qui ne connaissent pas le folklore japonais, et en tout cas les yokai, c'est des démons qui habitent le Japon féodal et médiéval. Ils sont partout en fait. Hein. Ils peuvent être bons comme mauvais, et ils font vraiment partie de la vie des gens. C'est merveilleusement bien exploité. Enfin, les personnages croisés dans le tome sont charismatiques, que ce soit par leur aisance au combat, leur cruauté, leur passé ou leur bonté.
Ils sont charismatiques par leur cruauté. On est bien dans le manga, là. Hein,
pas forcément dans le manga, mais en tout cas, là, il y en a certains qui sont vraiment charismatiques par leur cruauté.
Ah oui, je crois qu'il était un petit peu choqué hein, sur certaines images. C'est pas à mettre entre toutes les mains, quand même. Faut être
voilà,
un petit
c'est ça.
Peu
notamment,
averti.
Dans le tome 2, il y a un préfet qui aime bien écarteler des enfants de 7 ans.
D'accord. C'est justement là où on en arrive. Est-ce que le dessin t'a perturbé, plus séduit? Qu'est-ce que t'en penses du dessin?
Alors, le dessin m'a séduit, c'est très beau. Mais par contre, voilà, c'est pas à mettre en toutes les mains, comme on vient de le dire. Il y a des cases qui sont particulièrement choquantes. Néanmoins, les environnements, qu'ils soient les environnements nous plongent directement dans le Japon féodal. Les combats sont dynamiques, même si on se perd parfois dans les chorégraphies qui sont un petit peu, comment dire, un peu trop dense. Le tout est aidé par un découpage qui est au service de l'action.
On a mis un extrait là.
Voilà, c'est ça.
On voit que ça bouge là quand même. Hein.
Ça bouge beaucoup. Il faut savoir qu'en fait, en haut de la case, on le voit pas, mais en fait, l'assaillant jette des sabres en l'air pour que ça fasse une distraction au niveau de l'autre assaillant qui va les parer, et ensuite il va arriver derrière lui et il va le tuer.
Pas tout quand même. D'accord, donc pour faire comment on appelle ça, une espèce d'illusion, détourner l'attention, on envoie les sabres.
Voilà, c'est ça. En fait, il y a beaucoup beaucoup de mouvements, il y a une chorégraphie des combats qui est très bien retranscrite, mais des fois
c'est très énergique, on voit dans l'image là que c'est très très énergique hein.
Mais parfois c'est un peu foutraque, on a un peu du mal à savoir où est-ce qu'on va.
Ouais, mais ça va, on n'est pas au cinéma, on peut prendre le temps de s'arrêter sur l'image.
On y revient souvent.
C'est ça qui est intéressant aussi, parce que
néanmoins la règle des 180 degrés est respectée. Alors qu'est-ce que c'est la règle des 180 degrés?
Je sais pas du tout là, tu me sors un truc.
En fait, la règle des 180 degrés en bande dessinée, c'est-à-dire que si un personnage en hors champ est à droite, pour le lecteur, il doit arriver à droite. S'il arrive à gauche, 180 degrés, il ne respecte pas la règle des 180 degrés.
D'accord.
Voilà. Voilà, on en apprend tous les jours grâce à moi.
Oui, on apprend à chaque fois, mais c'est très très bien, on aime bien, c'est pour ça qu'on aime bien la chronique de Vivien.
L'identité graphique de chaque personnage est différente, chaque apparition marque le lecteur, parce que ben voilà, ils ont tous une identité graphique qui est propre et super intéressante. La violence, comme je l'ai dit, est très bien, voire trop bien dépeinte par moments. Certaines cases sont voire un peu choquantes. Enfin, les ninjas de feu crèvent les planches, que ce soit avec leur allure de démon, l'apparence est étudiée et résonne dans l'imaginaire collectif du lecteur.
Ah oui, c'est ce qu'on voit là, le ninja de feu.
C'est ça.
On dirait une espèce de montre religieuse ou un anime. Enfin, c'est un démon quoi.
Voilà, c'est ça. Pour les gens qui connaissent un petit peu le folklore japonais, on est vraiment dans la représentation du yokai.
Et là, on voit le dessin quand même, hein, le détail, c'est vraiment exceptionnel. Hein. C'est à voir sur la vidéo Facebook. Hein. Retrouvez-nous, bien sûr, sur cette chronique sur le Facebook de la radio. C'est un Facebook Live en vidéo, Osmose Web Radio. Alors, on en est où, là? Premier tome des ninjas de feu, conquis, pas conquis?
C'est un très, très bon premier tome. Alors, pour avoir lu les trois premiers tomes, puisque le tome 3 est sorti très récemment, voilà, j'ai pas uniquement un ressenti sur le tout premier tome. L'essentiel de la série jusqu'à présent est très bien. Ce premier tome, il pose les bases d'une série qui sera certes violente,